BFM Business, le club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Bonsoir et bienvenue au club MediaRH.com, le rendez-vous de l'emploi, du management, des ressources humaines et de la découverte. J'espère que vous allez passer une heure en bonne compagnie avec nous. Nous sommes ravis d'être avec vous, de vous accompagner peut-être dans votre retour, sur votre retour de week-end. Cette émission a été parfaitement préparée par Patricia Allouche, coordonnée également par elle, et réalisée parfaitement, vous allez le voir, vous allez l'entendre, par Fabien Lerebourg. Alors, nous sommes ensemble pour une heure. Tout à l'heure, nos consoeurs, comme chaque dimanche, à la fois Sophie Peters, éditorialiste à la Tribune, sera là pour son coup de cœur, son coup de foot. Ce soir, de quoi va-t-elle nous parler? Je le sais. Pourquoi et comment le management favorise la manipulation? Drôle de sujet. Sandrine Chicot, chef de service 01 Business et 01 Technologie, terminera l'émission avec le rendez-vous de l'innovation RH. Au passage, bien sûr, comme chaque dimanche, une entreprise à la une, il s'agit de Deloitte, le célèbre cabinet de conseil et d'audit représenté par Jean-Marc Micheler, associé, responsable, directeur de la stratégie RH et de la marque employeur. Il s'agit d'une entreprise de 6500 salariés. Il s'agit peut-être aussi de votre future entreprise, futur employeur. Restez bien à l'écoute. Jean-Marc Micheler est celui qui va vous donner les clés, peut-être, pour rejoindre ce célèbre cabinet tout au long de l'émission. La page experte avec Isabelle Ray-Millet, directrice associée de Ethicon Consulting. Ethicon Consulting, elle est déjà dans le studio, bonsoir. Pour un colloque qui a eu lieu le 6 juin dernier sur quel autre management des hommes et des femmes, bien sûr. Pour accompagner la performance des entreprises françaises. Enfin, comme chaque dimanche, une personnalité dans l'actualité, un auteur chez Plon qui n'a aucun, mais vous allez l'entendre, aucun rapport a priori avec l'entreprise, avec le management. Il s'agit d'un professeur, philosophe et écrivain français, agrégé de l'université et docteur en philosophie, professeur de chaire supérieure en cagne classique au lycée Fénelon à Paris, maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris. Par ailleurs, m'a-t-on dit, militant du parti de gauche, hein, c'est dans votre CV, c'est clairement dit. Nous sommes ravis de recevoir ce soir, pour son entretien, vous l'avez certainement vu à la télévision déjà également, son entretien avec Karl Marx, comme s'il y était et que vous y êtes, Henri Pena Ruiz. Bonsoir Henri Pena Ruiz.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pour nous parler de Karl Marx. Vous l'avez rencontré.
Oui, je l'ai rencontré à la fin de sa vie, après le décès de sa femme. Il était très éprouvé, mais il était très lucide. Et je l'ai interrogé pour savoir si son œuvre pouvait éclairer les grandes questions de notre modernité. Le but était de mettre à l'épreuve ce préjugé, cette idée ressassée selon laquelle il serait obsolète depuis l'effondrement du mur de Berlin.
Premier jour de janvier 1882, Maitland Park Road, c'est ainsi que j'ai appris qu'il habitait là. Vous me dites qu'à cette époque de janvier 1882, il fait très sombre, un quartier de l'ombre où vous arrivez, dites-vous, j'arrive enfin chez lui, désormais Karl Marx est seul, il n'a que 63 ans, mais tous ceux qui l'ont rencontré dernièrement le décrivent à bout de force. Le voici, c'est comme une pièce de théâtre, vous imaginez entrer chez lui à ce moment-là et de venir l'interviewer en quelque sorte. C'est un entretien.
Oui, c'est un entretien imaginaire, bien entendu, destiné à faire un échange sur les grands axes de la pensée de Marx. Et comme vous pouvez l'imaginer aussi, il me répond par ses textes.
Alors, ce sont des questions qui sont les vôtres. En fait, les réponses, elles existent, elles sont dans ses textes. On va y venir. C'est très original, et je dis très, très original. Cette salle l'est tellement que c'est le troisième ou quatrième exercice du style dans la collection que dirige Marc Le Carpentier, c'est bien ça?
Oui.
Il y a d'abord eu
un entretien avec le Marquis de Sade par Noël Châtelet, un entretien avec René Descartes par Mazarine Pinjot, et il y aura bientôt un entretien
avec... Vous êtes le troisième entretien dans la collection avec Karl Marx. Et qu'est-ce qui va suivre, Freud?
Un entretien avec Freud et un entretien avec Mozart.
Magnifique. Voilà, c'est une idée originale de confier, de proposer à des écrivains comme vous, Henri Pena Ruiz, de s'entretenir avec une personnalité qui n'est plus là, qui a marqué son époque, qui continue à marquer notre époque avec toutes ses controverses, toutes ses réalités et ses irréalités. On est dans l'imaginaire, mais aujourd'hui, à l'ère de l'hologramme, on pourrait presque penser que ce soit possible.
On pourrait le penser. Ceci dit, il faut être honnête intellectuellement et techniquement. Bon, oui. C'est un interview imaginaire par un philosophe qui essaie de réfléchir sur son époque. et qui interroge un philosophe qui, lui, a vécu au XIXe siècle et pour tenter de saisir la pertinence éventuelle de ses thèses.
Alors, bien sûr que vous auriez aimé, s'il y avait une baguette magique, repartir en 1882, quelques mois avant la mort de Karl Marx, être à ses côtés, vraiment, pour pouvoir lui poser toutes les questions que vous lui avez posées. Encore une fois, il y a vos questions, il y a ses réponses, comme on dit, mais vous affirmez que toutes les réponses que vous avez mises à vos questions sont en fait tirées de ses propres livres, de ses propres manuscrits. C'est bien ça.
Absolument, d'accord, dans la stricte fidélité, sans qu'on change une virgule.
Alors, pourquoi aujourd'hui cette rencontre avec Karl Marx? Pourquoi précisément en 2012, là, dans cette période politique que nous vivons, que nous venons de vivre, pourquoi avoir décidé, choisi Karl Marx?
Alors, très brièvement, il me semble que Marx a vécu à l'âge du, au premier âge du capitalisme, un capitalisme débridé, dont les initiatives économiques n'étaient pas tempérées par des lois sociales. Puis, il y a eu le deuxième âge, en gros le compromis des Trente Glorieuses, où un ensemble de lois sociales sont venues conduire le capitalisme à composer avec d'autres exigences que celles du profit immédiat, en introduisant des exigences humaines, l'humain d'abord, comme dirait effectivement un certain programme du Front de Gauche, l'humain d'abord, et puis nous sommes arrivés depuis l'effondrement du mur de Berlin, qui n'est pas l'effondrement du marxisme, mais l'effondrement du stalinisme, rigoureusement distinct de la pensée de Marx. Nous sommes arrivés dans le troisième âge du capitalisme qui rêve en fait de revenir au premier âge en remettant en question toutes les conquêtes qui avaient effectivement conduit le premier capitalisme à s'humaniser en quelque
sorte. Alors, Henri Pénard-Huys, on va parler d'emploi bien sûr dans cette émission, c'est le but, on n'est pas là pour faire de la critique littéraire, je le répète, chaque dimanche on est heureux de vous avoir, vous êtes l'invité témoin, vous pourrez échanger avec nos, avec ceux qui sont experts ou qui sont chargés de ressources humaines, de marque employeur, etc. dans cette émission. Vous qui êtes un professeur, vous qui êtes un homme du service public, ça ne vous dérange pas d'échanger, en tout cas dans un studio, qui, dans une émission qui parle, qui s'appelle BFM Business?
Non, pas du tout. C'est la première grande inquiétude de Marx, c'est que le capitalisme produit du chômage en même temps qu'il produit de la richesse. Et il est heurté par ce paradoxe. Comment se fait-il que les gains de productivité rendus possibles par le progrès technique soient uniquement affectés à l'augmentation du profit et produisent ce qu'il appelait une armée de réserve de chômeurs qui font évidemment pression sur le prix de la force de travail? Donc la question de l'emploi était déjà une question vive à l'époque de Marx, et elle est aujourd'hui une question vive avec ce paradoxe d'une modernité qui, comme le disait Victor Hugo, produit la richesse en créant la misère. C'est le paradoxe que soulignait Victor Hugo dans Mélancolia et qui avait finalement conduit Marx à consacrer sa vie à la compréhension et à la critique du capitalisme.
Avant d'aller plus loin, Henri Pénard-Huys, juste, et puis après on va faire une pause, juste une petite parenthèse. Dans la première partie de votre livre, que j'ai sous les yeux, eh bien, vous expliquez que on a vite fait de transformer Marx en partisan de la dictature. Oui. Comme son faux émule, Staline.
Oui.
C'est vrai que pour beaucoup de gens, Marx, avec tous ses écrits, toute sa pensée, a conduit à des millions de morts. Je fais court.
Oui, bien sûr.
Marx a donné Staline, des millions de morts. Et vous défendez Marx en disant que c'est pas du tout ça, qu'en réalité, il recensait, je vous cite, il recensait les exactions du stalinisme. C'est bien ça. Il était contre cette forme de...
Il aurait été contre. Moi, je défends une thèse qui est bien simple et je vais l'exposer par analogie. Est-ce qu'on impute à la loi d'amour de Jésus-Christ les crimes de Torquemada et de l'Inquisition? Non. Alors pourquoi fait-on l'amalgame entre une pensée de liberté et d'émancipation qui fut celle de Karl Marx et effectivement cette horreur absolue que fut le goulag stalinien? Ma thèse, et je crois qu'elle peut se soutenir avec la lecture des textes, c'est qu'il n'y a pas une phrase de Marx qui permette d'anticiper le goulag stalinien.
Vous dites qu'il était, il disait lui-même, je ne suis pas, à la fin de sa vie, je ne suis pas marxiste.
Oui, il disait cela quand il voyait transformer sa pensée en une sorte de dogmatisme acritique, non critique, et il rejetait l'idée d'un marxisme dogmatique.
Alors, vous restez avec nous, Henri Pénarruis. On est ravis de vous recevoir. On va parler d'emploi. Ben, vous allez nous, au fur et à mesure de notre entretien, nous éclairer, nous donner la vision de 1848 de cet entretien que vous avez eu avec Karl Marx.
Le club MediaRH.com sur BFM Business.
Bonsoir Jean-Marc Micheler.
Bonsoir Alexandre.
Merci d'être avec nous Jean-Marc Micheler. Vous êtes associé, responsable, je l'ai dit dans le sommaire, de la stratégie RH et de la marque employeur chez Deloitte. C'est très important, c'est un point important et vous avez impulsé vous-même, vous faites partie de ceux qui ont impulsé dans ce cabinet qui compte 6500 salariés, répartis dans le monde, c'est ça?
6500 en France, un peu plus de 180 000 dans le monde.
Oui, un cabinet connu, reconnu de notoriété mondiale, on ne peut rien
vous
dire.
Dites,
il existe depuis combien de temps, ce cabinet, dans le monde, de Deloitte?
Oh, on a une très très longue histoire. On a une histoire qui est quasi centenaire, si on remonte à l'origine.
Aux origines de Monsieur Deloitte, parce qu'il devait exister, Monsieur Deloitte.
Absolument, absolument.
C'est ça, Monsieur le fondateur.
Deloitte, Monsieur Haskins, Monsieur Ross, ils étaient plusieurs.
Alors, votre métier, c'est le conseiller l'audit? C'est-à-dire que ça va de quoi à quoi?
C'est d'apporter des solutions aux entrepreneurs de toute taille, tout au long de la vie de leur entreprise, que ce soit à travers effectivement nos prestations réglementées, d'audit, de certification des comptes, d'accompagnement en matière d'expertise comptable, mais que ce soit également à travers l'ensemble de notre offre de conseils, qui va de l'accompagnement à la création d'entreprises, à la transformation de ces entreprises, aux opérations de structure, fusion, acquisition, etc. Donc c'est d'offrir des réponses à toutes les problématiques qui peuvent...
D'accompagner les entreprises dans leur quête de changement, j'imagine. Alors, des postes à pourvoir, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle on va évoquer ce sujet avec vous. Où en êtes-vous? On est à mi-parcours, comme on dit, pour 2012. Combien de postes avez-vous prévu de créer ou combien de postes sont à pourvoir en 2012 et combien en reste-t-il à pourvoir?
Écoutez-moi, dans cet horizon un peu morose, moi, je souhaiterais dire qu'on est raisonnablement optimiste. Donc on a maintenu l'ensemble de nos prévisions de recrutement de jeunes diplômés. Donc on va recruter de l'ordre de 800 jeunes diplômés cette année. On a un étiage global de recrutement que l'on prévoit de pouvoir porter jusqu'à 1000 recrutements. Donc on se laisse la possibilité également de recruter 200 expérimentés.
Oui, le curseur n'est pas fermé.
Le curseur n'est pas fermé. Évidemment, sur les profils expérimentés, on est un petit peu plus prudent. En revanche, nous avons, comme je l'ai dit, maintenu l'ensemble de nos prévisions de recrutement de jeunes diplômés.
Alors, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler dans cette émission, on est là pour ça. Je répète, sur BFM Business, le club MediaH.com est là pour vous aider à recruter peut-être votre futur employeur. Et vous êtes nombreux, on vous en remercie des mails que vous nous envoyez pour, justement, on est fiers de participer à cette rencontre, cette solution de médiation que nous proposons chaque dimanche sur BFM Business pour mieux connaître les entreprises et peut-être pour créer des opportunités de rencontre. Vous restez à l'écoute, on fait juste une petite pause.
BFM Business, le club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Alors, Henri Pénarruis, professeur et philosophe pour son livre Entretien avec Karl Marx aux éditions Plomb. On va revenir sur l'emploi, bien sûr, au travers de cet entretien imaginaire avec Karl Marx, avec le grand connaisseur de Marx qu'est Henri Pénarruis. Concrètement, aujourd'hui, nous sommes également à votre disposition pour en savoir plus sur les postes à pourvoir chez Deloitte avec Jean-Marc Micheler, associé, vous venez de l'entendre, responsable stratégie RH de la marque employeur. On va savoir ce que ça signifie, la stratégie RH et la marque employeur chez Deloitte tout à l'heure. Vient d'arriver dans le studio, comme chaque dimanche, Sophie, c'est notre Sophie à nous. Sophie Peters, bonsoir.
Bonsoir Alexandre.
Qui va, pour sa chronique, s'attaquer à un sujet. Alors parfois c'est souriant, parfois c'est un peu plus compliqué. Je sens que ça va chauffer dans le studio, puisque vous avez décidé de vous attaquer à la manipulation mentale. Mais c'est grave Sophie, qu'est-ce qui se passe? Alors vous nous dites qu'il est vrai qu'il y a depuis le début de l'année beaucoup d'articles dans la presse consacrés au profil du pervers narcissique. Oui, c'est Nouvelle Obs, c'est ça, non? En particulier,
ouais, il y a eu deux couvertures.
Il y a un mois et demi.
Exactement.
Ce qui vous a amené, ma chère Sophie, moi inquiétant ce soir, ce sujet, à vous interroger dans le monde de l'entreprise sur la façon dont le management favorise la manipulation. En fait, tous ces portraits dont on parle, je ne sais pas pourquoi ça a démarré d'ailleurs au Nouvelle Obs, pourquoi d'un seul coup tout le monde se met à s'intéresser. Il y a eu un livre, je pense, c'est ça, un
nouveau départ. Il y a eu un livre, et puis il y a eu Marie-France Irigoyen, vous savez, qui a écrit sur l'harcèlement moral. Voilà, et puis c'est autant l'hystérie était la maladie du temps de Freud en Vienne. Mais aujourd'hui, on peut dire que la maladie du siècle ou le profil pathologique du siècle qui commence, c'est plutôt celui du fameux pervers narcissique.
Voilà, du pervers narcissique qui se traduit par SPD, c'est ça, non, vous m'expliquerez, non, séduction. C'est ce qu'on veut. Madame Irguen m'a expliqué. Séduction, possession, destruction.
Ah, pas mal, pas mal.
Vous voyez, j'en sais un peu plus.
Ah oui, je vous trouve très
bien. J'espère qu'elle viendra dans l'émission. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi
sans tomber dans le travers qui consiste à voir des pervers partout, ça m'ennuie un peu tous ces sujets là-dessus, mais je me suis dit, on peut peut-être quand même s'interroger sur ce qui, dans le management des entreprises, favorise ce type de comportement, pour ne pas dire de déviance. En faisant de la performance et de la compétitivité des équipes l'alpha et l'oméga du management des 20 dernières années, les entreprises ont encouragé, il est vrai, et sans le savoir, l'émergence d'un individu froid, sans aucune empathie ni culpabilité, enclin à mettre en état d'infériorité son interlocuteur, véritable petit capot qui exerce une pression sur ses subordonnés ravalés au rang de fonction.
Oui, ce sont seulement les subordonnés qui prennent, hein, si j'ai bien compris.
Ah bah oui, mais en général, oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors ce sont les rois de la loi, des méthodes à 3 balles pour mieux vendre, réussir, mener un entretien avec succès. En réalité, ces experts en management sont de grands handicapés émotionnels.
C'est bien parti. Alors vous dites que ce sont des manipulateurs parce qu'ils ont tendance à réduire l'autre à une relation d'objet pour le faire coïncider avec la vision qu'ils ont de lui. Mais une petite parenthèse, ça a dû toujours exister, ça, non? Le narcissique.
Alors, ça a toujours existé. Pour la psychanalyse et Freud en particulier, qui l'avait étudié, la perversion est en effet liée à la relation d'emprise. Elle est l'expression du déni de l'altérité. L'autre n'existe pas, sa différence est niée. Il est donc impensable et surtout inacceptable qu'il éprouve des désirs et des besoins distincts. Entretien d'évaluation, 360, tableau de bord divers et variés, charte de valeurs, pression hiérarchique en cascade depuis les actionnaires sur les dirigeants jusqu'au simple manager sur son assistante, autant de processus et d'organisations qui concourent à mettre nombre d'individus en situation de toute puissance sur autrui.
Alors ça se passe comment, d'après ce que vous avez, l'enquête que vous avez pu mener, Sophie Peters?
Ces individus en mal de narcissisme, elles sont inaccessibles à toute parole, ils jouent en permanence avec la parole, pervertissent la réalité, travestissent le discours, altèrent le sens des choses, jouent des ambiguïtés et finissent ainsi par faire coïncider la réalité avec leurs souhaits en ayant éradiqué toute contradiction.
Des noms.
Non, je ne pense pas à dire. Résultat. Au mieux, la personne manipulée en vient tôt ou tard à ne plus considérer son agresseur et à lui retirer toute confiance. Au pire, elle finit par être déstructurée, et ce d'autant plus qu'elle est pleine de vie, positive, investie dans son travail et cherche à bien faire. Car celui qui manipule la fait passer pour la cause de tout ce qui va mal, l'amenant à se sentir coupable puis confuse. On sait combien la confiance fait désormais défaut dans les entreprises aujourd'hui et combien la parole vraie brille par son absence. De quoi favoriser l'émergence de ce mécanisme, même chez ceux qui en sont les plus éloignés.
Alors avant de lâcher la bride à tous nos invités pour faire réagir, comment mieux s'en protéger, selon vous, Sophie Peters?
L'emprise qu'autrui peut prendre sur nous sera toujours le résultat d'une faille, malheureusement, dans notre estime de nous ou dans l'image que nous avons de nous. N'importe qui d'entre nous peut un jour devenir la proie d'un être sans scrupules et tomber sous son emprise. Les êtres pervers et manipulateurs se réjouissent de vos faiblesses, car elles leur permettront d'asseoir leur supériorité sur vous. La bataille se gagnant avant tout dans la tête, comme le préconisent les pratiquants d'arts martiaux, chacun doit s'interroger sur son pouvoir personnel afin de récupérer une capacité de réaction, ne plus être un objet, redevenir un sujet, tel est l'enjeu. L'eau de consolation, quand même. En croisant la route de manipulateurs, cela peut être le point de départ d'un entraînement qui permet à terme de devenir plus fort.
Alors, c'est pas perdu pour qui toi. Veut prendre la parole dans le studio sur ce thème, encore une fois, dont d'un seul coup tout le monde s'est pris d'intérêt sur ce sujet du narcissisme pervers,
beaucoup,
encore une fois.
Voilà, parce que les organisations, le fonctionnement de la société, consommation favorise ce genre de comportement. Ça ne veut pas dire qu'il y a des pervers partout.
Alors, j'imagine que ça va faire réagir Henri Pénaruis, au-delà de Karl Marx, vous avez cité Freud, également Jean-Marc Micheler, et elle vient d'arriver dans le studio. Bonsoir Isabelle Rémillet.
Bonsoir Alexandre.
Merci d'être avec nous. Je disais que vous étiez directrice associée de Ethic Consulting, c'est bien ça?
Ethic Consulting. Voilà.
On parlera de votre manifestation juste après, mais d'abord on reste sur le sujet.
Bien sûr.
Alors l'invité témoin, Henri Pénaruis, est-ce que vous sentez que là il y a un vrai sujet sur
Il y a un vrai sujet. Il y a une phrase qui ouvre le Capital et que j'aime beaucoup. Marx dit, on va penser que je ne peins pas le capitaliste en rose, mais je tiens à dire que je ne m'en prends pas à l'homme, mais à la fonction que le système lui fait remplir.
Oui, je rappelle que vous êtes notre invité, pardon, pour votre entretien avec Karl Marx chez Plon, hein, on y revient, mais pardon.
Donc je ne m'en prends pas à l'homme, mais à la fonction que le système le conduit à remplir. Et ce que Sophie vient de mettre en évidence, c'est la logique proprement inhumaine, déshumanisante d'un système. Il ne s'agit pas de faire un procès d'intention aux êtres humains, sauf que à partir du moment où ils s'identifient à la logique d'un système, ils peuvent faire du zèle, en rajouter sur le turnover dans les ateliers, sur le turnover dans les bureaux, pour faire comprendre aux gens qu'ils sont en précarité. Madame Parizeau a quand même dit en 2005, je cite, « L'amour et la santé sont précaires, pourquoi le travail échapperait-il à la loi ?» C'est une formule terrible qui montre que la précarité est érigée en système, elle est érigée en un moyen de produire plus de profit. Donc, alors, ce que je veux dire, et pardonnez-moi un dernier mot, ce système réduit le social à un résidu de l'économique, alors que le social devrait être la finalité de l'économique. Il est donc déshumanisant, réifiant. D'ailleurs, même le concept de ressources humaines, quand vous y réfléchissez, il est en analogie avec les ressources énergétiques. C'est-à-dire que l'humain, est, à travers cette formule qui est devenue très usuelle, très courante, réfléchissons sur cette expression, l'humain est réduit à une chose. Il est réifié. On parle de stock à dégraisser dans les expressions les plus abjectes. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui est un signe d'un système qui, au lieu de considérer l'humain comme une fin, comme disait Kant, le considère comme un moyen, comme un outil, comme une ressource, et effectivement, ça conduit à ce qu'a très bien analysé Sophie, me semble-t-il.
Alors, on peut ne pas être d'accord, être d'accord avec vous. Les avis sont partagés, heureusement, et tant mieux, avec vous, Jean-Marc Micheler, responsable de la stratégie RH, mais on parlera de vous, de votre entreprise après, sur cette idée-là, intellectuellement. Est-ce que c'est quelque chose dont on peut souffrir effectivement dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a des gens que, ce qu'on a la description qu'a pu faire Sophie?
Moi, je crois qu'on trouvera toujours des exemples qui éteindront ce qu'a dit Sophie. Je pense que il faut pas se leurrer. En revanche, je trouve que toute généralisation me paraît dangereuse, et notamment toute généralisation qui tendrait à dire qu'un entrepreneur, il est par essence productiviste. Moi, aujourd'hui, me paraît un constat qui est faux. En tout cas, c'est pas ce que l'on rencontre quand on discute avec nos clients, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit la taille de leur industrie. Je crois qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise a compris que le capital humain, même si c'est peut-être pas un terme beaucoup plus élégant que ressources humaines, les talents, le développement des talents des individus, quel que soit leur rôle dans l'organisation, était une composante fondamentale du bon fonctionnement de l'entreprise.
Y compris l'esprit critique.
À la réaction de Henri Pénaris, y compris l'esprit critique.
Y compris l'esprit critique.
Oui, j'imagine que oui.
Y compris l'esprit critique.
Bien sûr.
Vous remarquerez aujourd'hui que dans toutes les grandes entreprises qui se sont saisies, je cite les grandes parce que les plus petites, c'est encore plus criant, mais toutes les grandes entreprises qui se sont saisies de cette problématique-là, ont remis en valeur le concept de management de proximité. Et le concept de management de proximité vise à deux choses. La première chose, c'est à tuer la forme d'autisme managérial qui voyait vivre d'un côté la direction de l'entreprise et de l'autre côté les forces de production, et d'autre part qui voyait l'encadrement intermédiaire avoir les comportements
décrits
par Sophie. Absolument.
Alors, réaction rapide de Isabelle Rémillet sur ce sujet, une minute.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Je vous renvoie à un excellent bouquin qui est sorti déjà il y a 3 ou 4 ans de Bob Sutton, qui s'appelait en anglais The Non-Asshole Rule, c'est-à-dire Objectif zéro sale con, et qui mettait en avant justement les dégâts que ce genre de personnages peuvent faire dans les entreprises, et notamment des gens très célèbres comme le feu dirigeant d'Apple, qui consommait 5 à 6 assistantes par an, hein, et qui a fait refaire faire trois fois en blanc les entrepôts pour que ça aille mieux avec la couleur de leur estafette de livraison. Donc ça ouais, existe, c'est vrai. Mais
c'est pas général.
Mais bien entendu.
On est d'accord que ce n'est pas général. Il y a des cons partout. Et oui, allez-y.
Il y a un indicateur que j'aime bien suivre, Alexandre. Et puis je pense que ça va parler à Henri Pénarouise. Dans n'importe quelle organisation, vous avez ce que j'appelle le TIB, le taux interne de baltringue. Ce taux, il est grosso modo de 20%, quelle que soit l'organisation.
Non, mais la question, c'est comment les repérer. C'est ce que voulait dire, ce que disait Sophie. Le problème, on sait tous que
comment
ça existe.
Comment éviter de les favoriser.
Comment éviter de les favoriser, voilà. C'est ça. Comment les repérer, se sauver et de pas entrer dans les griffes du narcissique pervers, puisqu'ils existent. Enfin, il y a tout un travail. C'est vrai qu'on est dans les ressources humaines. Pardon, il nous reste 30 secondes vraiment, juste parce qu'il y a les infos qui arrivent.
Monsieur Pénarouise, je pense qu'il faut éviter de personnaliser à l'excès. Oui. C'est un système qui est en jeu. Moi, je ne crois pas que les hommes soient mauvais par essence, là, y compris celui qui dirige une... Mais je crois que le système les conduit à faire des choses.
Alors, merci Sophie Peters pour cette chronique. Comme que chaque
merci
fois,
Alexandre.
Elle met son petit grain de poudre, là. Hein, c'est du poivre qu'elle nous injecte. Et c'est très bien comme ça. On se retrouve juste après les infos avec nos autres invités et nos invités, bien sûr, présents.
BFM Business, le club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Heureux, bonsoir, avec notre invité témoin, Henri Pénarouise, professeur et philosophe, pour son livre Entretien imaginaire. Je rajoute cela, c'est pas dans le titre, mais le titre est réel étant Entretien avec Karl Marx aux éditions Plomb. C'est une série assez astucieuse. C'est la troisième parution après
Sade par Noël Châtelet et Descartes par Mazarine Pinjot.
Voilà. Vous avez rencontré en janvier 82, on l'imagine, Karl Marx, et vous l'avez interrogé sur l'ensemble de sa vision du monde avec votre regard à vous de philosophe aujourd'hui. Votre invité, bien sûr, vous l'avez entendu il y a quelques minutes, Jean-Marc Miquelet. Bonsoir, associé, responsable de la stratégie RH et de la marque employeur chez Deloitte, audit et conseil, 6500 salariés en France. Combien de postes à pourvoir d'ici la fin de l'année, Jean-Marc?
800 jeunes diplômés.
800 jeunes diplômés. On est là pour ça, je le répète. Le club MediaRH.com sur BFM Business a pour objectif numéro un de vous aider, bien sûr, si on peut, dans la compréhension de tout ce qui touche au management et aux ressources humaines aujourd'hui, mais surtout vous aider peut-être à recruter votre futur employeur. Audit Deloitte, audit et conseil a besoin de vous. On va savoir quels sont les profils recherchés en particulier, quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour postuler et qu'est-ce qu'on peut espérer justement obtenir de la part de cette entreprise en termes d'opportunités et voire même de carrière. On va le savoir tout à l'heure. Vous avez entendu également la voix d'Isabelle Rémier. Rebonsoir.
Rebonsoir, Alexandre.
On va parler de votre colloque du 6 juin dernier. Et je précise que Sandrine Chicot est déjà dans le studio. Bonsoir, Sandrine.
Bonsoir.
Sandrine Chicot, chef du service 01 Business et 01 Technologie pour son rendez-vous Innovation RH. Alors, c'était passionnant sur l'article de Sophie Peters, sa chronique a mis le feu aux poudres, sur les fameux narcissiques pervers qui, dans l'entreprise, peuvent être absolument odieux. Vous avez tous réagi. Je voudrais non pas rebondir, parce que si vous vouliez ajouter quelque chose, vous-même, Isabelle Rémillier.
Je voulais dire, pour rebondir aussi sur ce que disait Henri Pénarouise, c'est qu'effectivement, le système favorise l'émergence de ces pervers.
Personnalité un
voilà.
peu particulière.
Mais c'est qu'il y a quelque part un terreau fertile, d'une part, et effectivement, beaucoup d'entreprises sont dans l'implicite sur un certain nombre de règles, et notamment des règles de comportement des managers, et plus on est dans l'implicite par rapport à ces règles, et plus ça laisse effectivement émerger ce type de comportement pervers narcissique.
Alors, puisqu'on vous a, particulièrement du colloque Management des hommes, ça tombe bien, hein, comment gérer les hommes et les femmes de l'entreprise pour améliorer la performance, c'était votre sujet du 6 juin. Oublions les pervers narcissiques. Et quelle est l'idée de départ, vous qui avez été consultant, c'est bien ça, et qui avez fait vos études à l'ESSEC, si je me souviens bien,
oui.
Business School. Vous avez parlez-moi de votre parcours d'abord. On vous connaît pas.
Mon parcours, c'est plus de 20 ans d'entreprise, absolument pas du tout ni dans le management ni dans la RH, oui. Mais plutôt dans le marketing et la communication, mais au contact d'un grand nombre de gens, parce qu'en plus, quand on est dans la communication, bah, on côtoie toutes les strates en oui. transversales de l'entreprise. Pas mal aussi dans le commercial, puisque j'ai eu à gérer des services de vente et de promotion des ventes. Donc, un constat que... mais il y a quand même des choses à faire, effectivement, dans l'entreprise, qui sont beaucoup liées à la communication, parce qu'encore une fois, comme je le disais, il y a beaucoup d'implicites dans les échanges, dans les relations interpersonnelles, et de cet implicite naît bien souvent les conflits, les angoisses, alors, etc.
Vous êtes par ailleurs directrice associée de Ethi Consulting. Que fait Ethi Consulting? Alors, en deux mots.
Ethi Consulting, c'est un cabinet conseil en management et en RH, un peu décalé. Alors pourquoi décalé? Parce que
combien de personnes dans l'entreprise?
Oh, ben nous, on est 12, hein, rien à voir avec Deloitte.
Bon, on dirait que c'est un reproche, dis-moi, qu'est-ce qui se passe?
12.
C'est
12,
bien 12 personnes dans un cabinet.
Salariés et donc des intervenants extérieurs. Et notre objectif, je dirais, notre ambition, c'est d'essayer justement de redonner le sourire aux managers et aux dirigeants.
Pourquoi ils l'ont pas?
Bah, pas toujours, hein, et en tout cas de leur faire garder. Le but du jeu étant effectivement d'intervenir sur des aspects comportementaux, de conduite du changement, de management.
Alors j'ai vu votre plateau, qui est assez beau plateau, n'est-ce pas? C'était le 6 juin dernier, sous la bannière de l'allocution d'ouverture, sous la bannière de Jean-Paul Delevoye, hein, le président du Conseil économique et social et environnemental, qui est à l'origine de ce colloque. Donc c'est quelque chose qui compte.
C'est Jean-Paul Delevoye a un discours qui est très percutant par rapport au management,
c'est vrai.
Et ce qui est étonnant pour un homme politique, hein, donc je l'ai rencontré il y a à peu près 2 ans quand il venait juste d'être nommé, et c'est quelqu'un qui a effectivement un discours très réaliste d'une part, mais aussi très constructif et très positif sur les enjeux qu'ont les entreprises par rapport au management.
Alors, votre souci, dites-vous, dans le cadre de ce colloque que vous avez mené, Isabelle, c'était de dire nos entreprises doivent actuellement relever de front 2 défis majeurs, leur compétitivité et le bien-être de leurs employés.
Oui, parce que nous, on travaille bien souvent avec des DRH, bien entendu, ou des patrons de business unit. Souvent, on nous dit, oui, vous savez, le problème, c'est que nous, notre sujet de préoccupation, c'est la ligne du bas dans le compte de résultats. C'est que, bon, bah, les hommes, c'est bien, mais les clients, les produits, le chiffre d'affaires, ça, c'est important. Donc, lier les deux, c'est-à-dire dire, mais attention, regardez, les hommes
et
les femmes, bien entendu. Alors, je suis une femme, donc ça me donne le droit de parler des hommes avec un grand H, parce qu'on est bien entendu sur le genre humain et non pas sur des genres. C'est vraiment de dire que il y a dans le management des entre guillemets, des réserves de productivité. On parlait tout à l'heure des ressources énergétiques, etc. Donc, j'ai ce discours-là. Et que c'est par les hommes qu'on peut aussi arriver à développer l'entreprise.
Alors, je fais réagir, bien sûr, à ce que vous dites. Enfin, en tout cas, c'est un échange. Jean-Marc Micheler, de Deloitte.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit là. Je crois que nous avons mis au cœur de notre promesse un concept simple chez Deloitte, qui est le développement de l'employabilité de nos collaborateurs. Pour quelle raison? Parce que nous avons la conviction que plus on leur offrira la possibilité de progresser, plus ils se sentiront libres de décider de la suite de leur carrière, que ce soit chez nous ou que ce soit ailleurs d'ailleurs.
Donc c'est une forme de réponse que vous voulez apporter à ce que vient de dire Isabelle.
Parce que l'employabilité, au fond, c'est la garantie de l'épanouissement des individus.
Oui.
L'épanouissement des individus dans une organisation, c'est la force du collectif. Et la force du collectif, ça permet d'alimenter la top line. Et donc ça réconcilie les deux approches. Donc l'objectif, il est absolument réconciliable.
Non mais le bien-être, c'est aussi une préoccupation aujourd'hui dans une entreprise comme la vôtre, de loi de
6500. Le bien-être, je ne sais pas ce que ça veut dire.
L'épanouissement,
je suis d'accord avec la vous. Prise de plaisir dans ce que l'on fait au quotidien et ce que l'on fait majoritairement dans les 24 heures, dans la partie éveillée des 24 heures d'un homme avec un grand H. Oui, l'épanouissement, c'est au cœur absolu de notre stratégie.
Être au travail et s'épanouir, c'est possible. Ouais. Alors, réaction, j'imagine que vous n'allez pas être d'accord, Henri Pénaruis. Ne me fais pas d'illusions.
Non, ce n'est pas une question exactement de désaccord. C'est que je suis effrayé par ce vocabulaire. Tout à l'heure, quand vous disiez il faut réintroduire l'humain, vous n'avez pas pu vous empêcher de dire oui, il faut quand même se soucier du capital humain. Autrement dit, il semblerait que dans cette logique, l'humain n'est considéré que in fine comme le meilleur moyen de développer la productivité, le capital humain. Je veux dire, bon, de même,
c'est un capital,
vous parlez...
C'est un...
Non, mais
c'est
moi, je refuse de réduire l'homme à un capital.
Il n'est pas réduit.
Non, bah, je refuse d'utiliser le vocabulaire qui sied aux choses
dans un vocabulaire qui s'applique aux êtres humains. Les hommes sont des fins et non pas des moyens. À partir du moment où on parle,
c'est Karl Marx qui a parlé du capital.
Humain.
C'est Karl Marx qui a parlé du capital. Est-ce que c'est pas lui qui au départ?
Non, mais il a pas parlé de capital humain.
Non, mais est-ce que c'est pas lui qui a dévoyé le mot capital, parce que capital humain, c'est pas une insulte.
Non, quand il parle du capitalisme, d'ailleurs, c'est pas une insulte. Il agit en économiste. Il dit, il s'agit de comprendre. Après, on jugera. Il faut jamais confondre les deux démarches. Il faut comprendre un mode de fonctionnement. Après, on juge au regard des effets, au regard des finalités, etc. Et Marx ne parle pas de capital humain. Il ne parle pas de capital humain. Il parle de capital et il montre que le capital déshumanise. Bon, quand vous parlez d'employabilité des êtres humains, c'est quand même extraordinaire. Je crois qu'on ne peut pas...
Là, vous vous adressez, je rappelle, à... Allez-y, à notre invité.
Non, mais je ne personnalise pas.
Jean-Marc Miquelard, j'ai compris.
Je ne personnalise pas, je sais bien que ce vocabulaire...
Il va répondre.
Je sais bien que ce vocabulaire est extrêmement répandu. On parle de l'employabilité. Je suis désolé, l'être humain ne se réduit pas à son employabilité. C'est quand même quelque chose d'important.
Jean-Marc Miquelard,
alors... Et il peut s'épanouir, justement, quand on cesse de le considérer comme étant uniquement une source de profit.
Faisons de l'échange. Jean-Marc Miquelard, réagissez.
J'imagine que... J'ai pas l'impression d'avoir dit qu'on réduisait l'être humain à l'employabilité. Moi, je voudrais revenir, Monsieur Pennery, sur deux choses. D'abord, capital, pour moi, c'est pas un gros mot.
Moi non plus. C'est la désignation d'un
système. Excusez-moi, mais la façon dont vous le présentez là, j'ai l'impression d'avoir employé un gros mot. Donc c'est pas un gros mot. Une entreprise comme la nôtre.
Non, mais c'est l'expression capital humain que je mets en cause.
Oui, mais c'est factuel. C'est-à-dire qu'une entreprise comme la nôtre, sa valeur, la valeur de cette entreprise, la valeur du collectif.
Qui fait du conseil.
C'est la force de ses talents individuels. Et la force de ses talents individuels, c'est le capital de cette entreprise. On n'a pas autre chose, nous, chez Deloitte. On a des femmes et des hommes qui sont fiers de ce qu'ils font, qui sont fiers des services qu'ils rendent à nos clients. Et pour moi, ça, après, on peut avoir un problème, on peut avoir un désaccord sur la sémantique. Mais pour moi, ça, c'est du capital. Et c'est ça que j'appelle notre capital humain. Et je suis fier de notre capital humain. Je suis fier des femmes et des hommes qui travaillent au service de nos clients. Ça, c'est la première chose. Alexandre, 15
allez-y,
secondes.
Allez-y.
Merci, Alexandre. La deuxième chose, c'est sur l'employabilité. L'employabilité, c'est là encore, nos femmes et nos hommes qui travaillent au service de nos clients sont extrêmement fiers d'apprendre tous les jours des choses nouvelles et sont extrêmement fiers de savoir que, et je vais utiliser un troisième mot qui va, à mon avis, créer la polémique, savoir que leur valeur individuelle, leur valeur de marché individuelle augmente tous les jours. Parce que tous les jours, ils ont plus de valeur par rapport à d'autres employeurs qui peuvent être susceptibles un jour de les recruter.
Oui, mais il faudrait quand même introduire un autre point de vue.
Un mot.
Est-ce que ce que vous dites vaudrait pour les ouvriers d'ArcelorMittal qui apprennent qu'ils ne sont plus employables aujourd'hui parce qu'en haut lieu, on a décidé que ce n'était plus rentable, qu'on pouvait délocaliser et gagner plus d'argent ailleurs?
Il n'est pas ArcelorMittal, il ne peut pas répondre.
Non, il n'est pas ArcelorMittal, mais le discours que vous tenez, il s'applique à des gens qui peuvent effectivement avoir quelques fiertés dans leur travail. Mais il y en a d'autres. Parce que la lutte des classes existe encore aujourd'hui, je crois, et Marx n'est pas démenti sur ce plan-là. Il y en a d'autres qui découvrent qu'ils sont réduits à des objets employables que l'on jette quand on n'en a plus besoin. Il y a une réification de l'homme, il y a une déshumanisation.
Alors, c'est un débat, malheureusement, qu'on ne va pas pouvoir continuer. Mais c'est passionnant. Mais le Club Média.com, pardon, vous m'en excusez, j'espère que vous me pardonnez, Henri.
Bien sûr.
Voilà.
Bien
sûr. Mais c'est passionnant. Mais le Club Média.com, c'est aussi l'occasion pour nous de donner la parole à ceux qui peuvent éventuellement aider à trouver un job pour d'autres. On va le faire. Je voudrais vous remercier Isabelle Rémillet d'être venue nous parler de l'action que vous menez. Vous reviendrez peut-être pour d'autres sujets, bien sûr, puisque le management des hommes, c'est justement au centre de votre activité. Et tout à l'heure, Sandrine Chicot sera là, c'est promis.
Le club MediaRH.com sur BFM Business.
Alors, Monsieur Miquelard, mais le débat est intéressant, c'est fait pour.
Monsieur Lichon.
Malheureusement, et Henri, je sais, il ne m'en veut pas, Henri Pénor-Ruiz, pour son formidable livre, je le rappelle, qui est notre invité témoin. On l'a choisi, Entretien avec Karl Marx chez Plon, c'est passionnant. On reviendra, bien sûr, dans la dernière partie de cette émission sur le livre. Mais d'abord, je l'ai promis, allez, je veux entrer chez vous, pas à votre domicile, dans l'entreprise qui s'appelle Deloitte. Quelles sont les qualités qu'il faut afficher, puisqu'on a la chance de vous avoir? Parlons de la politique RH de l'entreprise. Bien sûr, on va parler de tout ce qui concerne la marque employeur, mais je voulais qu'on reste sur du concret. Les candidats, on a dit, ce sont des jeunes diplômés, bac plus 4-5 minimum.
Alors, c'est pour moitié, donc je vous ai dit 800 jeunes diplômés, pour moitié des bac plus 3 pour nos métiers d'expertise comptable, et l'autre moitié, effectivement, des bac plus 5, diplômés d'école de commerce, d'école d'ingénieur, universitaire, à formation financière.
Alors, ils sont diplômés, on les imagine, on les voit, ils sont beaux, tout frais et moulus, comme on dit, de leurs grandes écoles. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont plaire à l'entreprise de Loi? En tout cas, qu'est-ce qu'il faut afficher comme valeur, comme qualité, alors, autre que le diplôme?
Alors, je vais partiellement répondre. Rapidement. D'abord, je vais vous dire, j'aime pas cette question, Alexandre, parce qu'en fait, un recrutement, c'est pas un acte unilatéral.
C'est pas une question de plaire non plus.
Non, c'est la rencontre entre un étudiant et son projet professionnel. Et une entreprise, ses valeurs et la façon dont ces valeurs sont incarnées. Donc elles sont incarnées en l'occurrence par les recruteurs. Une fois qu'on a dit ça, nous ce qu'on souhaite, ce sont des gens qui ont un potentiel, qui sont curieux, qui ont déjà touché à beaucoup de choses, qui ont envie de découvrir de nouveaux horizons, qui ont le sens des responsabilités. Évidemment, on est sur des métiers qui sont
de haut niveau,
voilà. Responsabilité.
Oui, parce qu'il s'agit d'accompagner des entreprises, donc il faut avoir la compétence. On forme, j'imagine qu'il y a une période de formation, comme
absolument. Et on cherche des gens qui vont trouver leur épanouissement dans le fait que on va essayer en permanence de les faire sortir de leur zone de confort.
Oui. Alors, quelle est l'erreur à ne pas commettre quand on s'adresse à un dirigeant comme vous, de Deloitte, pour postuler?
Je crois que pour rester très, très
simple, une idée.
Et pour donner un conseil vraiment applicable dans toutes les situations, je crois que, je vous l'ai dit, c'est une rencontre. Et donc, quand il y a une rencontre, il faut apprendre à connaître sa contrepartie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'erreur la plus fréquente, c'est d'arriver chez nous et de donner l'impression qu'on est dans un processus par hasard. Parce qu'on a le bon diplôme, parce qu'on a la bonne formation. Mais au fond,
on ne connaît pas
l'entreprise, on ne connaît pas les valeurs de l'entreprise, on ne connaît pas le projet professionnel, on ne s'est pas intéressé. On a envoyé 250 CV, 250 lettres de motivation, et le recruteur le sent.
Donc d'abord, première chose, allez sur mediarh.com. Tiens, vous allez pouvoir découvrir l'entreprise.
Oui, ou
allez
sur le site de l'entreprise. C'est bien aussi.
Non, vous avez raison. Allez sur le site de l'entreprise. Oui, en fait, prenez la peine. Il faut prendre la peine, comme pour tout, d'aller comprendre le fonctionnement de l'entreprise, etc. Alors voilà, les conseils de Jean-Marc Micheler. On se retrouve dans quelques instants. Si vous nous écoutez depuis 19h, j'espère que comme nous, vous passez un moment formidable à l'écoute de BFM Business, du club Mediarh.com, avec des personnalités, des sujets chauds qui se croisent, qui s'entrecroisent, qui s'affrontent même. On peut ne pas être d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'avis de chacun. Notre objectif, je le rappelle, c'est de vous aider peut-être à découvrir l'entreprise qui sera la vôtre demain, de recruter votre futur employeur, comme on le dit chez Mediarh.com. On est heureux d'être avec vous. Il nous reste encore 10 minutes avec nos invités, dont Henri Pénaruis, entretien avec Karl Marx chez Plon. On terminera l'émission avec lui. Sans oublier, bien sûr, Jean-Marc Micheler, associé, je le remercie vraiment, responsable stratégie RH et de la marque employeur chez Deloitte, entreprise de 6500 personnes en France. Sandrine Chico, bonsoir.
Bonsoir, Alexandre.
Et vous aussi, merci d'être avec nous, comme chaque dimanche présente. Pouvez-vous nous apporter votre regard? Je rappelle que vous êtes une experte RH, bien sûr, côté 01 business et 01 technologie. À chaque fois, vous vous penchez sur un sujet de management ou de découverte de site. Là, on va parler management et c'est passionnant. Hein. Apprendre à naviguer en eau trouble. Ça veut dire quoi? Décidément, ce soir, on a des sujets
très... Vous allez comprendre le jeu de mots, je n'en doute pas, deux secondes. Voilà, en fait, c'est le groupe EDEC. En partenariat avec la Marine nationale, propose aux quatre dirigeants une formation en management qui se passe essentiellement à bord d'un bateau.
D'un bateau de la navale.
Donc, c'est une expérience assez unique. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit groupe de 18 managers qui ont embarqué, puisqu'ils sont revenus pendant une dizaine de jours à bord d'un navire avec des officiers de la Marine nationale et des élèves pour apprendre à gérer des situations difficiles et surtout à s'adapter.
Ben, c'est une bonne idée. Alors, vous avez interrogé, bien sûr, ceux qui ont vécu cette expérience. L'un des participants, c'est Patrick Mauche, c'est ça?
Voilà, exactement. C'est le responsable.
Quelle société, lui?
Voilà, Cotium, c'est de la sécurité informatique.
Et alors, d'abord, qu'est-ce qui l'a poussé, ou en tout cas, à se tourner vers ce type de formation? Parce que d'abord, c'est très original. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu, comment dire, anecdotique comme formation, justement?
Alors, absolument pas. J'espère que je vous aurai convaincu à la fin de ma chronique, Alexandre. En tout cas, lui m'a convaincu. Lui a été convaincu par cette formation. En fait, il a fait le constat au contact de la génération Y qu'il était parfois assez désarmé. Et il se disait, tiens, est-ce que j'ai le bon comportement? Est-ce que je dois finalement faire évoluer mes pratiques, manager autrement? Ça, c'est un premier point. Il s'est dit aussi, j'ai envie d'évoluer vers un poste donc plus de direction dans mon entreprise. Et il s'est mis en quête d'une formation qui ne soit pas classique, une formation qui finalement le sorte de son quotidien. Et j'aime bien son expression. Il dit une formation qui le sorte de sa zone de confort.
C'est, alors,
c'est encore du jargon, mais ça a le mérite.
Alors voilà, qu'est-ce qu'il a fait comme formation?
Alors, donc, elle s'appelle, le nom de la formation, c'est Advanced Management Program. C'est un stage qui s'étale sur un an.
Alors, au final, dites-vous, le dépaysement était à l'affiche. Est-ce qu'il a été véritablement au rendez-vous de ce stage?
Alors, effectivement...
Parce que sur un bateau de la Royal, de la Naval, une semaine, c'est ça,
comme
ça
a duré une dizaine de jours. Voilà, on peut totalement l'imaginer. Ça a été une expérience unique. D'abord parce que, pour un cadre dirigeant, il a coupé les ponts avec tout.
Oui, elle est facile, ça.
Il s'est déconnecté. Oui, mais c'est leur quotidien.
Non, la marine,
plus d'emails, plus de téléphones, c'est pas anecdotique. Et puis, voilà, il a vécu vraiment une immersion. Il s'est immergé dans le quotidien de la Marine nationale. Il a participé notamment à des exercices qui font partie de l'entraînement des élèves officiers.
Question, est-ce qu'il a été malade? Parce que le problème, c'est qu'il faut avoir le pied marin pour
faire une
formation.
Alors, je suis idiote, j'ai pas posé la question.
Ah ben oui, parce que le problème,
Je vais le rappeler.
On peut le faire en avion, quoi. En bateau, dans le désert, est-ce qu'on n'a pas le mal du vide, etc. Faut poser la question.
C'est vrai.
J'imagine que cela ne se laisse pas intact, en tout cas, en effet. Alors, qu'est-ce qu'il a retiré de cette formation? Lui, ça lui a bien profité.
Ce qu'il retire, c'est que dans une situation complètement inhabituelle comme ça, il apprend vraiment à se connaître, à voir ses réactions en situation de stress. Et il dit, on se découvre des nouveaux talents, on s'étonne soi-même, c'est important. Effectivement, il a aussi pu, en observant beaucoup la vie à bord de ce bateau, nourrir sa réflexion sur sa façon de manager. Voilà, exactement, en observant d'autres méthodes de management, et notamment les pratiques des officiers de la marine.
Le maniement des canons, le maniement
des
bombes.
Voilà, vous êtes dans les clichés, Alexandre, vous êtes dans les clichés. Il y a des bonnes choses à prendre, donc, visiblement.
Alors, qu'est-ce qu'il a frappé, par exemple?
Alors, trois choses. Il parle de leur adaptabilité. En fait, ces officiers ont une capacité d'adaptation incroyable. Ils parlent de leur bienveillance les uns envers les autres, une valeur qui, à ses yeux, va prendre de l'importance dans l'entreprise et on a parfois peu dans certaines entreprises. Il parle aussi de leur travail en équipe. Effectivement, il était vraiment en admiration. Il dit, sur un bateau, tout a du sens. Chacun est à sa place, respecte le cadre de sa mission. Le qui fait quoi est parfaitement clair, tout comme la chaîne de commandement. Et même la notion du temps est fondamentale, ce qui n'est pas toujours le cas dans une entreprise où, en France particulièrement, on commence pas toujours à l'heure les réunions et parfois elles s'éternisent.
Alors, dernière question, Sandrine Gicot, mais d'une manière très sérieuse cette fois. Bon, il est revenu de son stage. Est-ce qu'on peut véritablement mettre en pratique ce qu'on a appris sur un bateau qui fait, je sais pas, 35 mètres, où on est restreint, confit, s'il y a l'orage,
question.
Faut rester à l'intérieur, ça tangue. Est-ce qu'on peut mettre en application tout ce qu'on peut apprendre sur un bateau en termes de management?
Alors,
est-ce
que vous lui avez posé la question? Vu le vécu, effectivement, j'ai posé la question. Après avoir longuement vécu au sein d'une équipe très soudée, il revient vraiment positif, alors qu'il était en période de questionnement. Il revient avec l'envie d'emmener son équipe. Il est plus positif et il dit, voilà, au quotidien, il s'efforce de partager cette énergie avec son entourage.
Merci Sandrine Gicot, vous viendrez dimanche prochain. Merci.
Avec plaisir.
Le club MediaRH.com sur BFM Business.
Vous avez pied marin, Henri Pénard-Ruiz. Vous aimez ça? Vous pensez imaginer de faire un entretien avec un imaginaire grand navigateur? Tiens, allez, Colomb, celui qui a découvert l'Amérique. Vous êtes partant?
Peut-être.
Mais une
petite remarque. Allez. Ce que je viens d'entendre est intéressant, mais c'est quand même un recyclage de luxe pour les grandes ce monde qui jouent leur mondialisation dans la classe affaires des avions ou dans les grands bateaux de luxe. Mais il me semble
que... Non, mais là, c'est la marine
oui.
nationale.
Bon, très bien.
On n'est pas dans le luxe. Quand même, au contraire.
Oui, mais bon, je crois qu'il serait bien peut-être de faire des recyclages interclasses avec des messieurs qui apprendraient peut-être à commander, mais...
en relation avec des gens qui sont tout en bas de l'échelle et qui pourraient leur expliquer des choses sur le stress du turnover, sur le stress de la compétitivité à tout craint, sur l'angoisse de perdre son travail, qui n'est même plus un travail mais qui est décomposé en multiples compétences. Il y a quand même cette atomisation aujourd'hui de la fonction de travail qui est quand même très inhumaine et très déshumanisante. Je ne vais pas faire un tableau apocalyptique, bien entendu,
quand même,
du capitalisme.
Si,
mon désir, c'est que, vous savez, moi, je considère, comme le disait...
Provocateur, en disant ça.
Mais vous avez raison, il faut faire de la provocation, j'en fais aussi souvent. Mais comme le disait Fourier au 19e siècle, socialiste utopique, on mesure le degré de civilisation d'une société au sort qu'elle réserve aux plus démunis. Et moi, ça a toujours été ma boussole. Quel est le sort que notre société, qui n'a jamais produit autant de richesses, réserve aux plus démunis? Qu'il y ait de nouvelles figures de la misère, qu'il y ait des SDF, qu'il y ait des gens qui, effectivement, ne mangent pas à leur faim dans le monde où nous vivons, je crois qu'il y a là un paradoxe. C'est le paradoxe, déjà, que soulignait déjà Jean-Jacques Rousseau avant Marx, qui disait « Est-ce que le développement des sciences, des arts et des techniques a produit une amélioration de la condition humaine ?» Et il y répond de façon paradoxale, non, pas nécessairement. Oui. Donc la question, c'est la question des fins, la question des finalités. À quoi bon produire si on ne produit pas pour l'humain? Il faut poser cette question, c'est peut-être le petit mot de éthique que je voudrais ici avancer.
Voilà, on termine l'émission sur cette interrogation de Henri Pénin-Ruiz, entretien avec Karl Marx, c'est chez Plon. Je vous conseille vivement de lire ce livre avec ses trois parties, bien sûr, et c'est une autre façon d'envisager Marx, mais j'ai envie de dire de découvrir Karl Marx, puisque les réponses, ce sont les siennes. Merci à vous, Henri Pénin-Ruiz.
Merci beaucoup à vous. Merci également,
Alexandre. Chez Plon, je le répète, merci à nos invités. On se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures, de nouveaux invités. Voilà, on est ensemble avec vous jusqu'à la moitié de l'été, quoi, pratiquement. On est ravis d'être sur BFM Business, j'espère que vous aussi. Et peut-être avez-vous trouvé votre futur employeur grâce à nous. Dites-le nous. À bientôt, à dimanche prochain.